Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de saint Paul, sur le trajet du retour. Je vous rappelle le début de cette première mission. D'Antioche de Syrie, Paul et Barnabé étaient partis par bateau vers la côte sud de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, en passant par Chypre. Puis, ils avaient fait étape à Antioche de Pisidie, Iconium, Konya aujourd'hui, Lystre et Derbé. Partout, nous l'avons vu dimanche dernier, les choses se passent de la même façon. Paul et Barnabé s'adressent d'abord aux Juifs et reçoivent un accueil plutôt contrasté, à la fois enthousiaste de la part de certains qui se convertissent et refus violent de la part d'autres qui se situeront résolument en opposition et qui finiront par les chasser. Et c'est à Antioche de Pisidie qu'ils ont décidé d'adresser la parole non seulement aux Juifs, mais également à ceux que l'on appelait des « craignants Dieu », c'est-à-dire des pratiquants de la religion juive, mais non encore intégrés par la circoncision, donc encore en rigueur de terme des païens. C'est pour cette raison que Paul dit que Dieu a ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Aujourd'hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour. Ils refont le même périple en sens inverse. Ils revisitent les communautés qu'ils ont récemment fondées. Elles aussi, certainement, sont affrontées déjà à des persécutions. Puisque Luc précise, Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Jésus déjà avait employé à son propre sujet des expressions analogues. Par exemple, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération ». Ou encore, en s'adressant aux disciples d'Emmaüs, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela ?» pour entrer dans sa gloire. Ce « il faut » ne dit pas, bien sûr, une exigence qui viendrait de Dieu. Dieu ne nous impose pas des épreuves ou des souffrances préalables. Cette formule « il faut » dit une nécessité, malheureusement due à la dureté de cœur des hommes, c'est-à-dire concrètement l'inévitable opposition à laquelle se heurtent les véritables prophètes, tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice. Au partage. Paul et Barnabé se préoccupent donc d'affermir la foi et le courage des nouveaux convertis. Ils doivent également veiller à la bonne organisation des communautés. Et là, je remarque deux choses. Tout d'abord, ils désignent des responsables, ceux qu'ils appellent les anciens. C'est le mot grec presbytéros, d'où vient notre mot français prêtre. Deuxième remarque, Luc dit ils désignèrent des anciens, puis, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Il s'agit ici précisément de ces anciens qu'ils viennent de désigner à la tête des communautés. Luc insiste ici sur la place de la prière et du jeûne. L'équilibre est bien gardé. On veille à l'organisation, mais on ne se fie pas qu'à elle. Prière et jeûne sont aussi importants. Tout à fait dans la même veine, je me souviens d'un évêque d'Amérique latine. Au congrès eucharistique de Lourdes en 1980, il avait dit « Un évangélisateur qui ne prie plus, bientôt n'évangélisera plus ». Petite phrase, peut-être pas superflue, pour nous qui sommes si préoccupés d'organisation. Luc nous dit encore que tout ceci se passe dans la confiance. Je cite, « Ils confièrent ces hommes au Seigneur. Ils leur ont donné des responsabilités. Maintenant, à eux de jouer, si j'ose dire. Le Seigneur les accompagne. » Les apôtres en sont bien convaincus. Ils l'expérimentent déjà pour eux-mêmes. La mission qu'ils assument n'est pas leur œuvre à eux tout seuls. Il suffit de reprendre le texte. Ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. Ils ont été remis à la grâce de Dieu et à leur tour, ils viennent de remettre à la grâce de Dieu les responsables qu'ils ont désignés pour les jeunes communautés. Et Luc continue, à leur arrivée, il racontait aux membres de la communauté d'Antioche de Syrie tout ce que Dieu avait fait avec eux. Le rapprochement est intéressant. Luc parle et de l'œuvre que les apôtres viennent d'accomplir et de ce que Dieu avait fait avec eux. On ne peut pas dire plus clairement que la mission que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune. Œuvre de Dieu confiée à l'homme. Œuvre de l'homme soutenue. Accompagné, sans cesse inspiré par Dieu. Si nous nous souvenions en permanence que l'évangélisation est d'abord l'œuvre de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Nous venons d'entendre 6 versets du psaume 144. Mais en réalité, il en comporte 21. 21 versets, c'est-à-dire autant que de lettres dans l'alphabet hébreu. Nous savons déjà que ce n'est pas un hasard. Qui plus est, ce psaume est vraiment alphabétique, en ce sens qu'il s'agit de ce qu'on appelle un acrostiche. Chaque verset commence réellement par une des lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. Nous avons acquis le réflexe. En face d'un psaume alphabétique, nous savons d'avance qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Manière de dire à toute notre vie, de A à Z, baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Mais pourquoi ce psaume 144 aujourd'hui et pourquoi non pas la totalité du psaume, mais ces 6 versets précisément? Première remarque, ce psaume figure dans la prière juive de chaque matin. Pour le juif croyant, le matin, l'aube du jour neuf, évoque irrésistiblement l'aube du jour définitif, celui du monde à venir, celui de la création renouvelée. On voit immédiatement la résonance qu'il prend alors pour nous, chrétiens, en ce temps pascal. Notre foi, c'est précisément que le jour du règne définitif de Dieu est déjà inauguré sous nos yeux par la résurrection du Christ. Et si l'on regarde d'un peu plus près les 6 versets précis qui ont été retenus pour aujourd'hui, il me semble, premièrement, qu'on a là un condensé de la révélation, à la fois très complet et très concis, et deuxièmement, qu'il entre en résonance parfaite avec les accents du temps pascal, et en particulier les autres lectures de ce dimanche précis. Premier verset entendu aujourd'hui, « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Lent à la colère et plein d'amour. C'est le meilleur résumé qu'on puisse donner de toute la révélation biblique, puisque c'est le nom que Dieu a donné de lui-même à Moïse au chapitre 34 de l'Exode. Deuxième verset, la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La tendresse et la pitié du Seigneur, dont le peuple élu a eu le premier la révélation, elles sont pour tous. Et cela, c'est une énorme découverte pour l'humanité. Une découverte que nous devons au peuple élu. C'est un thème que nous avons rencontré déjà à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu aime toute l'humanité. Et son projet d'amour, son dessein bienveillant, comme dit Paul, concerne toute l'humanité. Aujourd'hui, nous entendons une résonance particulière avec le livre des Actes des Apôtres que nous lisons pendant tout ce temps pascal. En particulier, le récit du livre des Actes proposé en première lecture dans la même messe de ce cinquième dimanche de Pâques insiste justement sur le fait que l'annonce de l'amour de Dieu n'est pas réservée aux Juifs. Elle est proposée à toutes les nations païennes, comme dit saint Luc. Soit dit en passant, c'est pour cela que nous sommes nous aussi croyants, plus de 2000 ans plus tard, même si nous ne sommes pas d'origine juive. Une autre particularité de ce psaume, et surtout des versets que nous avons lus aujourd'hui, il insiste sur la royauté de Dieu. « Tes fidèles diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. » Quatre fois le mot « règne », sans parler du mot « empire », et deux fois le mot « exploit ». Nous savons bien que le mot « exploit » dans la Bible est toujours une référence à la libération d'Égypte. Dieu a libéré son peuple. Je ne devrais pas dire « Dieu a libéré », comme si c'était du passé. La foi juive dit mieux, elle dit « Dieu libère aujourd'hui son peuple », et ce, depuis la première libération. Et bien sûr, la libération ultime, c'est la victoire sur la mort. Ce psaume est donc tout particulièrement indiqué pour le temps pascal. Le ressuscité du matin de Pâques expérimente dans sa chair la royauté de Dieu. Si vous avez le courage de vous rapporter au texte complet de ce psaume, vous verrez qu'il y a une parenté très grande entre ce texte et celui du Notre Père. Par exemple, le Notre Père s'adresse à Dieu à la fois comme à un Père, « Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous du mal », un Père qui est le Dieu de tendresse et de pitié, dont parle ce psaume, et comme un roi, que ton règne vienne. Soit dit en passant, ce rapprochement n'a rien d'étonnant. Quand on sait que toutes les phrases rassemblées par Jésus dans le Notre Père faisaient déjà partie de son temps, des prières habituelles des Juifs. J'en reviens à notre psaume. Très certainement, quand le peuple d'Israël composait ce psaume, cette insistance sur la royauté de Dieu ou sur son empire était une manière de dire « Plus jamais nous ne ferons confiance à des idoles. Notre seul roi, notre seul maître, c'est Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Et quand les fidèles du Christ disent ce psaume à leur tour, ils savent de quoi ils parlent, si j'ose dire. En Jésus-Christ, le roi serviteur, le roi humble de la passion et triomphant de la mort par la résurrection, ils ont découvert la présence du roi de l'univers. « Qui m'a vu, a vu le Père », disait Jésus à ses apôtres.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Voici que je fais toute chose nouvelle. Ciel nouveau, terre nouvelle, Jérusalem nouvelle. Voilà notre avenir, nous dit saint Jean, notre avenir, en deux mots, ce qui vient. Fini les larmes, la mort, fini les pleurs, les cris, la tristesse, c'est du passé. Premier ciel, première terre ont disparu. Évidemment, Jean anticipe et nous a bien prévenus. Son livre est un livre de vision. Il révèle l'avenir pour donner le courage d'affronter le présent. Premier ciel, première terre, cela nous renvoie au récit biblique de la création. Le premier chapitre présentait la création, ce que l'Apocalypse appelle la première création, comme tout entière bonne. Je cite, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. » Et pourtant, nous faisons chaque jour l'expérience des pleurs, des cris, de la tristesse, de la mort. Et c'est la suite du livre de la Genèse, le récit du fruit défendu qui nous dit ce qui pervertit la bonté de la création. Il nous dit que la racine de toutes nos souffrances est dans la faille qui s'est creusée entre Dieu et l'humanité. Ce soupçon originel qui ruine sans merci l'alliance proposée. Soupçon qui pousse l'humanité à prendre des chemins qui ne lui réservent que des échecs. Tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu s'est entendu rappeler par les prophètes dans la voie de l'Alliance. La seule voie du vrai bonheur, c'est que Dieu habite vraiment parmi nous, que nous soyons son peuple, qu'il soit notre Dieu, que l'Alliance soit restaurée sans faille, comme un dialogue d'amour, comme des fiançailles. C'est la soif d'Israël tout au long de son histoire, et des textes prophétiques innombrables annoncent très exactement ce que l'auteur de l'Apocalypse voit désormais réalisé. Le prophète Isaïe, par exemple, je cite, « Oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Exultez sans fin. Réjouissez-vous de ce que je vais créer, car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse. On n'y entendra plus de cris ni de pleurs. » Symboliquement, ce renouvellement de toute chose est représenté par la disparition de la mer. Rappelons-nous que la création de l'univers est réfléchie dans la Bible à partir de la création du peuple élu. Or, cette naissance du peuple extirpé à l'esclavage en Égypte a été une victoire sur la mer. Dieu a fait apparaître la terre ferme pour le passage de son peuple. Le peuple sauvé a traversé à pied sec. Et les forces du mal, les forces de l'esclavage, de l'oppression ont été englouties. Plus tard, dans le Nouveau Testament, au cours de sa vie terrestre, le Fils de Dieu fait homme a manifesté sa victoire sur le mal, sur les forces de l'abîme, en marchant sur la mer. Désormais, la victoire est totale, suggère l'Apocalypse. La mer a disparu. Et avec elle, toute forme de mal, toute forme de souffrance, de larmes, de cris, de mort. Ce que les hommes attendent, sans toujours le savoir, ce que l'univers tout entier attend, c'est l'accomplissement de ce grand projet que Dieu forme depuis la création du monde. Instaurer avec l'humanité une alliance sans ombre, un dialogue d'amour. Le thème des noces de Dieu avec l'humanité nous paraît toujours audacieux. Mais il est très présent dans la Bible dès l'Ancien Testament, chez les prophètes Osée ou Isaïe, par exemple, et dans le Cantique des Cantiques. Il est présent aussi dans le Nouveau Testament, à commencer par le récit des noces de Cana, pour ne citer que lui. Et dans notre texte de l'Apocalypse, on réentend cette promesse sous deux formes. D'abord, dans l'image de la Jérusalem nouvelle, je cite, « toute prête » comme une fiancée parée pour son époux. Et ensuite, dans l'expression « Dieu avec eux », le mot « avec » ici est très fort. Il dit l'alliance de l'amour, l'alliance d'un couple. Je cite « Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. » Elle disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. » C'est tout le sens du prénom Emmanuel, Dieu avec nous. Et voici que la Jérusalem nouvelle descend d'auprès de Dieu. Le sang de la nouvelle création porte le nom de la ville sainte qui, depuis tant de siècles, symbolise l'attente du peuple élu. Le nom même de Jérusalem signifie « ville de la justice et de la paix ». Et en même temps, cette nouvelle cité descend d'auprès de Dieu et elle est dite « nouvelle », ce qui veut dire qu'elle n'est pas seulement œuvre humaine. Cela signifie que le royaume de Dieu que nous attendons et auquel nous essayons de travailler est à la fois en continuité et en rupture avec cette terre. Voilà de quoi galvaniser notre énergie. Nous sommes invités tout simplement à collaborer avec Dieu. Notre œuvre sur cette terre contribue au renouvellement de la création, car l'intervention de Dieu transfigurera nos efforts.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les premières phrases de ce texte sont comme une sorte de variation sur le mot « gloire ». Quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. » Tout ceci nous paraît un peu compliqué. Mais en fait, c'est une manière bien juive de parler. Elle dit la réciprocité des relations entre le Père et le Fils, ou mieux, leur union fondamentale. « Qui m'a vu, a vu le Père. » C'est aussi une phrase que saint Jean a retenue. Ou encore, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ici, dire que le Fils de l'homme est glorifié, ou que Dieu est glorifié en lui, c'est dire que le Fils est le reflet du Père. Au passage, nous notons une fois de plus l'effort qu'il nous faut faire pour comprendre le vocabulaire de Jésus et de ses contemporains. Je reviens au texte. D'après Jésus lui-même, c'est donc au moment précis où Judas part dans la nuit de la trahison que lui, Jésus, accomplit sa vocation d'être le reflet du Père. Mais Jean ne l'a pas compris tout de suite. Remettons-nous dans l'état d'esprit des apôtres au moment de la sortie de Judas et dans les heures qui ont suivi. Ils ont d'abord assisté impuissants à la passion et à la mort du Christ. Ils ont vécu cette succession d'événements comme un moment d'horreur. Mais après coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la gloire de Jésus. Car c'est là que le Fils révélait jusqu'où va l'amour du Père. Et parce que le Fils trahi, abandonné de tous, persécuté par tous, persiste, lui seul contre tous, à n'être que amour, bienveillance, pardon. Il révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, sans limite. Et alors, et c'est la deuxième partie de notre texte, ceux qui contemplent ce mystère de l'amour fou de Dieu deviennent capables d'aimer comme lui à leur tour. Car Jésus lit bien les deux choses. Il dit « Maintenant, je vais révéler au monde jusqu'où va l'amour du Père. » Et « Maintenant, je vous donne un commandement nouveau. » C'est d'aimer de la même manière. Sous-entendu, « Maintenant, vous en serez capables. Parce que vous puiserez en mon propre amour. » Je m'attarde un peu là-dessus. En fait, la nouveauté, ce n'est pas le commandement d'aimer, Jésus ne l'invente pas. Le commandement d'amour est bel et bien dans l'enseignement des rabbins de son temps. Ce qui est nouveau, c'est d'aimer comme lui, c'est-à-dire en étant complètement guidé par son esprit. Et alors, nous comprenons désormais tout autrement la fameuse phrase « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Bien plus qu'un commandement, c'est un constat. Si nous sommes réellement ses disciples, c'est son propre esprit qui dicte nos comportements. Pour le dire autrement, Dieu sait si l'amour au jour le jour est difficile. C'est presque un miracle. Eh bien, si nous y parvenons dans nos communautés chrétiennes, le monde sera bien obligé d'admettre cette évidence que l'Esprit du Christ est en nous. Nous sommes donc invités d'abord à un acte de foi. Croire que son esprit d'amour nous habite, que ses ressources d'amour nous habitent, que nous avons désormais des capacités d'amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes. Et alors il nous devient possible d'aimer comme lui, parce que c'est son esprit qui agite en nous. Cela nous paraît bien difficile envers certaines personnes. Jésus n'ignore certainement pas cela quand il donne ce commandement à ses disciples. Mais il ne faut pas confondre amour et sensibilité. Jésus vient de montrer en acte de quel amour nous devons nous aimer. Je vous rappelle le contexte. Cela se passe pendant son dernier repas avec ses disciples. Jésus a commencé par leur laver les pieds et il a terminé en disant « C'est un exemple que je vous ai donné ». C'est donc cela, aimer comme il nous a aimés. Et après tout, si on y réfléchit, il est possible de se mettre au service les uns des autres, même de ceux pour lesquels nous n'éprouvons pas d'attirance. Or, notre fidélité à ce commandement est vitale, nous dit-il, puisque c'est à cela que nos communautés seront jugées. D'après lui, le plus important, ce n'est pas la qualité de nos discours, de notre théologie, de nos connaissances, pas non plus la beauté de nos cérémonies, c'est la qualité de l'amour, c'est-à-dire du service que nous nous offrons les uns aux autres. En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le dévoir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu, et Dieu est glorifié en lui. En Jésus, l'humanité est introduite dans la gloire de Dieu, dans la vie de Dieu, par l'événement de la passion, mort, résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les disciples de Jésus-Christ peuvent vivre leur vie tout entière sous le signe de l'amour, puisque Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à travers eux. Peut-être suffit-il d'y croire pour le laisser agir en nous.
C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.